GG, petit proverbe maorais. Nkofu moya kaifuzundra. Un que j'aime pas du tout non plus. Kukui mjeni kali mjeni atro. Et un que j'aime énormément. Kaniva tsuzi anipua ujamba masuzi. Kwaeri.
Bonjour Daniel, moi j'écoute ton émission régulièrement. Là je viens d'écouter l'émission sur Mayotte et je dois vous dire que je suis effaré. Effaré par le discours fascisant qui se développe de plus en plus sur cette petite île comorienne, non, mais également française. Et donc je voudrais proposer à mes frères maorais, puisque je suis comorien de Marseille, hein, je précise, de se retrouver autour d'une table, hein, après que les patients se seraient un peu estompés, hein, qu'on parle de l'avenir de ces îles, donc de Mayotte, mais aussi des autres îles, autour d'une même table, comme tout comorien, aux frères qui se respectent. Voilà.
Voilà ce que je voudrais dire. C'est Isabelle. Donc, je m'appelle Isabelle. Ça fait plus de 28 ans que je partage l'histoire des Comores, plus de 15 ans que je vis à Mayotte. Et je voudrais envoyer un immense merci à Daniel et à Guy pour la bouffée d'oxygène qu'ils nous envoient avec cette émission. Et je voudrais dire qu'aux auditeurs de France et de partout, que ce qu'ils entendent, c'est vraiment ça, quoi. C'est exactement ce qui se passe à Mayotte, l'ambiance, les propos qui sont tenus et malheureusement distillés à longueur de temps. Et je voudrais rappeler aussi les propos qui ont été tenus par le passeur d'Anjouan hier soir dans l'émission, quand il disait qu'avant 95, les gens donc venaient à Mayotte, mais n'y restaient pas forcément et rentraient chez eux ensuite. Donc ça, c'est important, ça montre la nécessité d'une libre circulation dans l'archipel et de l'abrogation de ce visa qui tue. Puis enfin, je voudrais dire aussi que bon, l'ostracisme qui fait la une en ce moment, qui est bon médiatisé si on veut, hein, n'est pas né avec Barouin, n'est pas né avec le visa, c'est constitutif de Mayotte française. Pour que Mayotte reste française, il a fallu que elle se définisse contre les autres et la séparation donc s'est faite très violemment finalement. Donc on vit encore ça aujourd'hui. Il y a urgence, quoi, urgence à dire, et donc merci à Daniel pour de nous aider à dire certaines vérités et à faire en sorte qu'elles soient entendues. Et puis il y a urgence à se mettre enfin à réfléchir, à inventer la bonne manière d'être ensemble. Parce qu'au fond, bon, la bonne manière d'être ensemble, c'est bien une question qui touche toute notre planète à la fin, enfin, ce 21e siècle, quoi. Hein? Allez, au revoir et encore merci.
C'est Gérard de Nancy. J'écoute les reportages sur les problèmes de Mayotte et des Comores. C'est très intéressant, mais au bout de 3 jours, je n'y ai encore rien compris. Alors voilà, si je te comprends bien, il faudrait que la France quitte Mayotte et que les Comoriens continuent à bénéficier du bilan positif de la colonisation française. J'aimerais un peu plus d'explications. De nombreux auditeurs n'y comprennent absolument rien. Je te remercie. Salut.
Une petite réflexion, Daniel, tu parles beaucoup de confettis. La contrefaiterie de confettis, c'est qui fait-on ? Allez, salut, au revoir.
Et oui, bah voilà, c'est exactement ça. Un confetti, mais qui fait-on ? Un confetti, mais qui fait-on ? Un confetti, mais qui fait-on ? Un confetti de l'Empire ? Et est-ce que ce qu'on y fait n'est pas pire ? Voilà, confetti que cette île de Mayotte où nous sommes, mais confetti explosif, c'est le titre de notre série de reportages. Je comprends qu'on comprenne pas. Hein. Je comprends cet auditeur qui n'y comprend rien. Au moins pour les solutions, quoi, parce que à la fois certains sont pour l'indépendance de Mayotte, mais ça c'est très théorique parce qu'il n'y a pas un Mahorais, il n'y a pas un habitant de Mayotte qui souhaite, au fond très peu, qui souhaite vraiment l'indépendance, bien évidemment, parce que l'indépendance, ça voudrait dire l'appauvrissement de cette île. Et quand même, et d'un autre côté, il y a comme une sorte de malaise de cette assistance française. Quand même, on peut pas s'en débarrasser, mais il y a comme un malaise. On le sent très vite, on le sent rapidement. Et puis, il y a donc l'Union des Comores, les 3 autres îles, qui, elles, ont choisi l'indépendance en 75, mais surtout qui aujourd'hui sont 3 îles, enfin une union des Comores extrêmement pauvre, et il y a une différence violente, flagrante entre Mayotte, donc, et les Comores. C'est une situation qu'on voit ailleurs, hein, on l'a dit, une situation qu'on voit en Guyane, qu'on voit dans les Antilles françaises, un peu partout. Qu'est-ce que c'est la situation? Ben, c'est tout simplement des îlots, des petits îlots de prospérité toute relative, hein, que ces territoires français, de prospérité relative au milieu d'océans de pauvreté. Et qu'est-ce qui est passionnant et qu'est-ce qui est violemment passionnant à Mayotte, c'est que d'ordinaire, nous autres Français avons la chance, enfin si on peut dire, de ne pas être directement confrontés avec la misère du reste du monde. Autour de nous, on a des pays aussi prospères, relativement prospères que nous. Et tout ça est bien loin. Mais quand on est à Mayotte, c'est tout de suite, c'est là, on a cette misère, ces inégalités en pleine face. Et voilà le vrai problème. Et le problème encore plus grave, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que l'inégalité est acceptée, de plus en plus facilement acceptée dans ce monde aujourd'hui, et que ces différences sont lourdes de menaces, pas seulement moralement, mais lourdes de menaces et de violences et d'explosions possibles. C'est pour ça que cette mission parlementaire que nous allons retrouver aujourd'hui était présente à Mayotte et dans les Comores pour essayer de comprendre la situation. Et puis nous, on a essayé de comprendre aussi, et on essaye aussi de vous faire comprendre, même si c'est pas facile. En tout cas, merci à tous ceux de Mayotte et d'ailleurs les Comoriens qui habitent en France, nombreux, 250 000 Comoriens en France, qui nous envoient des messages et qui nous donnent des précisions, leurs analyses, et en gros, on peut le dire, leur satisfaction que pour une fois, on parle d'eux. Donc voilà, vous avez compris, suite de la balade dans ce confetti explosif, après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la Bastille, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Alors l'information, une information entendue sur France Culture à 12h35-40, au sujet des centres de la Croix-Rouge qui ont fermé dans la banlieue parisienne, il a été répondu de la part de la Croix-Rouge que ces centres n'étaient pas rentables. C'est pas mal ça quand même. Donc finalement, on peut en conclure qu'on va s'occuper désormais de la misère que si elle est rentable. Allez, merci pour vos émissions, à bientôt, salut.
Bonjour, c'est Rowena du Bas-Tuivre de Aupère de l'île de Groix. C'est juste pour préciser qu'à partir de maintenant, le jeudi soir, c'est à 9h, pas à 8h30. L'écrosion doit sortir de table un petit peu plus tard que prévu. Et voilà, merci, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Benjamin de Lyon. Eh bien, je voulais souhaiter une bonne fête à tous mes amis arabes, une bonne fête de l'Aïd el-Kébir, à tous ces enfants, non pas issus de l'immigration, mais issus de la colonisation. Voilà, je vous embrasse, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, Mayotte, un confetti explosif.
Flight number 2, arriving from Dijon.
Tout dépend comment on cadre le paysage, parce que si on regarde là, on a eu la barrière de corail, la mer est d'un bleu absolument fabuleux. Là, on a les palmiers, là, on a... C'est vraiment des paysages extraordinaires. Là, le sable fin en bas, quelques arbres sur la plage, quelques pirogues à balancier, là-bas, avec les vagues blanches là, qui se cassent sur la barrière de corail. Sauf que c'est de là que partent les gens de cette région-là, d'Anjouan, vers, vers Mayotte. Mayotte, c'est là-bas. Hein.
Oh, oui, Mayotte, c'est là-bas. Ici, bon, à partir d'ici, tu vois, on peut voir l'île de Mouéli.
Ouais, là-bas.
Et le soir, d'ici, parce que là, on est à 80 km
de Mayotte,
on voit la lumière. On voit les lumières de Sada.
Ouais. C'est ça qui
Donc, les gens qui habitent ici se sentent plus proches de Mayotte. Ils se disent, écoutez, mais c'est à côté.
Ouais.
Et là-bas, il y a la belle vie. Pourquoi je reste ici dans la misère?
Ouais. Surtout qu'il y a un lien historique. Hein. Voilà. Il y a un lien ancien, il y a un lien culturel, il y a un lien de langue, il y a tout ce qu'on veut. Ce n'est pas des pays étrangers. Hein. C'est... Et donc, voilà, toute la misère est là. Toute la tristesse est là. Et là, en contrebas, il y a deux tombes.
En fait, ce n'est pas deux tombes. Parce que vous voyez de l'autre côté là-bas, il y a une barque orange. Ça, c'était une barque qui avait transporté 30 personnes. Bon, mais il y avait plus, parce qu'il y avait aussi du bétail et tout ça. Ils venaient du côté sud de l'île. Mais ils ont été surpris justement par cette barrière, parce que le gars qui avait amené le bateau, il connaissait pas très bien la région. La mer était montée, ils ont voulu rentrer sur la plage. Et là, la vedette a échoué. Et les 30 personnes sont mortes. Donc là, au moins, il y a au moins 30 tombes. Pour vous dire que bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais bon, maintenant les traces s'effacent parce qu'avec la pluie, il n'y a pas d'entretien. Ouais. Donc les traces s'effacent.
C'était quand ça, tu sais?
Bon, ça date de l'année dernière. Mais là-bas, on m'a raconté qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes qu'on a enterrées. Ici et là. Donc c'est pourquoi, justement, des fois, les villageois ici disent. Ça, c'est la cimetière anonyme, parce que les gens qui sont enterrés, on ne les connaît pas. C'était des personnes qu'on n'a pas identifiées. Mais ceux qu'on a identifiés, ceux qui sont du village, on les enterre au cimetière du village. Mais ce qu'on a enterré ici, bon, c'est des anonymes, quoi. On ne les connaît pas, quoi. C'est des inconnus.
Alors, tu crois que ça part toujours, les bateaux partent toujours d'ici? Les Kwasa-Kwasa partent toujours?
Chiroruni reste le grand port clandestin.
Ici, c'est-à-dire ici?
Ici, en Jouan. Officiellement, on dit, voilà, vous partez pas, mais chaque jour, il y a des départs et chaque jour a son lot de morts.
Qui le sait? Qui le sait que ça se passe comme ça entre les Comores et Mayotte, c'est-à-dire la France. C'est mort, les gens des Comores les appellent les morts baladurs. Est-ce que monsieur Baladur sait que il y a un endroit de cette planète où les noyés dans ces embarcations de fortune, ces migrants clandestins qui meurent s'appellent des morts baladurs. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que ce qu'on appelle ici le visa baladur, ben c'est une condamnation à mort? C'est terrible, non? Je ne sais pas s'il l'ignore, mais en tout cas, on l'ignore, les Français de métropole l'ignorent, mais en tout cas, pas dans le coin, ni à Mayotte, ni dans les Comores. Ce visa a été imposé en 1995 par le gouvernement de M. Balladur, il y avait une cohabitation à l'époque, et pour essayer de limiter l'immigration de l'Union des Comores vers le confetti, ce confetti de Mayotte. Il y a des auditeurs qui me disent, mais attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que Mayotte, c'est 374 km², mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est ça, la taille de Mayotte, c'est 374 km², vraiment un tout petit confetti, 160 000 habitants, selon les chiffres sont très variables et très très tordus dans un sens ou dans l'autre, selon les opinions des uns et des autres. Mais enfin, voilà, le chiffre le plus couramment admis, c'est 160 000 habitants, dont 12 000 étrangers en situation régulière et environ 55 000 clandestins venus, et ça c'est ce qui est énorme évidemment, venus essentiellement des Comores, de Madagascar et d'Afrique continentale, mais enfin essentiellement des Comores. Un taux de chômage entre 30 et 50%, là non plus, on ne sait pas, c'est l'apanage dramatique des pays pauvres ou en développement, comme on dit pudiquement, que de ne pas avoir de chiffres fiables, de ne pas avoir de statistiques précises. J'ai essayé depuis lundi, j'essaye de faire comprendre ce que j'ai compris un peu sur l'histoire de ces, ce que nous avons compris sur l'histoire de ces Comores, cette, ce qui était une colonie française jusqu'en 1975, jusqu'à ce fameux référendum de 1975, où il y a eu une, un phénomène assez assez étonnant et surtout très ignoré des Français de métropole. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que les clandestins dont que nous évoquons là ne franchissent en fait aucune frontière aux yeux du droit international et aux yeux des Nations Unies. Le 12 novembre 1975, l'archipel des Comores, composé des quatre îles de Grande Comore, Gazidja, Anjouan, Mohéli et Mayotte, était admis à l'ONU comme un État nouvellement indépendant. Ça, c'est le point de vue des Nations Unies. Mais la France considère, et aux yeux du droit international, viole les règles internationales. La France considère que Mayotte, qui a majoritairement choisi de rester dans le giron français, passe sous contrôle français. Et la France maintient son drapeau et ses fonctionnaires à Mayotte en s'appuyant sur une volonté des Mahorais, donc à travers ces référendums. Et depuis, bien les Mahorais ont régulièrement confirmé leur désir de rester dans le giron français. Évidemment, c'est un désir qui est peut-être bien intéressé, qui n'est pas aussi patriotique qu'on pourrait le supposer. Depuis, la France a été condamnée régulièrement par les résolutions des Nations Unies, plus d'une vingtaine de fois, et cette situation reste illégale. Mais il y a une situation de fait. Alors, il y a l'illégalité vis-à-vis du droit international, et puis il y a, vous voyez, la force de l'évidence qui fait que aujourd'hui, les Mahorais n'ont plus envie d'indépendance, mais il y a ce différentiel social, cette fracture sociale entre cette petite île et puis les trois autres îles qui sont guère plus grandes, différentiel si important qu'évidemment les habitants des Comores passent leur temps d'aller vers cette lumière, vers cette lueur, vers cet Eldorado qu'est Mayotte. Et aujourd'hui, le gouvernement français trouve que c'est trop, que et qu'il faut renvoyer, il faut reconduire ces clandestins, ces sans-papiers. Mais c'est des opérations, on les a évoquées, très difficiles, quasiment impossibles, pour des raisons évidemment évidentes. Donc là, on est non loin de Moutsamoudou, on est à Anjouan. Et on est sur l'une des côtes d'Anjouan, d'où effectivement partent beaucoup de ces sans-papiers, on les appelait comme ça, de ces Anjouanais vers Mayotte sur ces embarcations de fortune qu'on appelle des Kwassa-Kwassa. On en a parlé hier. C'est des paysages effectivement très à la fois très beaux, mais quand on commence à savoir lire un peu ces paysages, on voit bien que c'est très desséché, que c'est très âpre et que la pauvreté y est très grande. C'est dans un petit village qui s'appelle Sadampouani qu'on va passer une partie de cette heure, jusqu'à 18h en tout cas, dans là-bas si j'y suis, sur France Inter, Mayotte, un confetti explosif.
Les gamins qui partent du sable.
Voilà, il y a tout, tout un tas de fillettes avec des sacs de sable sur la tête. Tu sais que c'est lourd, ça, le sable.
Ah oui, ça fait à peu près 15 kilos.
Voilà. Elles ont 10 ans, 12 ans. Uh-huh. Elles se prennent 15 kilos sur la tête. Elles remontent le sable de la plage. Uh-huh. Et puis, elles, je sais pas, elles font des tas en haut.
Oui, ils font des tas en haut. Et puis, il y a des camions qui viennent des autres villages et qui viennent même de Domoni pour acheter ce sable. Bon, tu sais, c'est toute une famille. C'est des familles qui font ça.
C'est les seules ressources qu'il y a dans
le coin. Oui, c'est leur seule ressource. Bon, puisque vous voyez que la terre ne produit plus rien. Donc pour eux, ramasser du sable, c'est une source de revenu. Aujourd'hui, on commence à enlever le sable. Vous voyez les trous béantes là-bas sur la plage.
Oui.
Et d'ici peu, il n'y aura plus de plage. Et ça, c'était la grande plage au sable blanc d'Anjouan. Maintenant, ça se referme. Et voilà les cailloux, les roches qui
montent. Oui, tout à fait.
Cette plage a perdu son charme.
Avec toutes ces petites fourmis qui remontent, tous ces gamins qui remontent, du sable qui va ailleurs. Parce que le problème ici pour le tourisme, c'est que c'est très souvent des plages de sable noir, c'est-à-dire des plages volcaniques, on va dire. Et ça n'attire pas trop le touriste. Il aime bien le sable blond et blanc. Il faut qu'il ait son décor comme sur le dépliant de voyage. Et sinon, ça ne va pas. Et voilà, les enfants qu'on vient de voir remonter avec leur sac de sable sur la tête redescendent, ils redescendent tous, ils sont une dizaine. Voilà, c'est souvent des fillettes d'une dizaine d'années, 10-12 ans, avec les petits garçons qui descendent avec leur sac et puis qui remontent et puis qui redescendent, et comme ça toute la journée. C'est très très abrupt, hein. Nous on hésite à descendre. Hein. Et les mômes font ça toute la journée. Et là-bas il y a un arbre sur la plage avec des gars qui discutent à l'ombre avec des barques à balancier. Puis là-bas, sous d'autres arbres, sous les palmiers, il y a un grand, ils appellent ça des quoi ça, enfin grand, c'est beaucoup dire, des barques qui peuvent tenir 20-30 personnes avec des bagages, et puis tenter l'aventure de la traverser jusqu'à Mayotte, c'est-à-dire jusqu'au paradis, au paradis français.
C'est l'histoire terrible qu'on raconte sur ces traversées, sur ces quoi ça, sur ces cercueils flottants. C'est l'histoire d'une femme qui hurlait de douleur à bord d'un de ces bateaux quand les gendarmes se sont approchés, les gens de la police de l'air et des frontières, parce que une femme hurlait parce que le passeur qui était à bord, enfin le pilote, celui qui conduisait qui pilotait ce quoi ça, avait jeté l'enfant de la femme à la mer parce que le môme braillait. Et pour pas se faire repérer par la police, le gars avait jeté cet enfant à la mer. Ça donne une petite idée de la cruauté, du désarroi, voilà. Le mot est faible, de ces populations. Tout vouloir régler par la loi, par la répression, par les radars, par les GPS, on pourra multiplier les forces de l'ordre et les reconduites. Il suffit d'ailleurs de parler 5 minutes avec justement les gens de la police de l'air et des frontières, les gendarmes et tout. Dès qu'on parle off, ils savent très bien que ce sont des mesures inutiles qu'on n'arrivera jamais. Ils vous disent tout de suite, mais ça revient à vider la mer avec une petite cuillère. Ils le savent, mais ils le font parce que c'est leur boulot. Évidemment, c'est toujours off. Toutes ces choses-là se disent. Donc on est dans ce village de Sadan Poigny. On croise des colonnes de personnes qui ont l'air un petit peu déplacées dans ce paysage, qui ont le visage assez sombre, assez hostile pour tout dire, qui n'ont pas tellement envie de nous parler, et qui sont habillées très très proprement, impeccables, et qui se faufilent comme ça dans le paysage et qui descendent vers la plage. Et bien ce sont ceux qui vont partir, qui vont s'embarquer. Et pourquoi sont-ils bien habillés, comme ça, habillés beaux? Et bien c'est quand on arrivera, se disent-ils, à Mayotte, on ne sera pas repéré. Si on arrive en haillon, on est sûr qu'on est tout de suite ramassé. passer parce qu'on est des anges douanais. Donc il faut s'habiller proprement, beau, pour passer inaperçu. Voilà, c'est ça l'idée qu'on se fait de la prospérité de Mayotte. Pour savoir aussi les raisons pour lesquelles les gens partent, et ben voilà, on est autour de cette fontaine, enfin fontaine c'est beaucoup dire, vous allez voir, sous d'énormes manguiers, et là des femmes attendent et parlent.
Alors là, on est dans un coin du village. Comment s'appelle le village ?
Sadampoani.
Il fait très très chaud, hein, et pas seulement aujourd'hui, c'est une région très chaude, c'est la partie sud de l'île, et c'est très dur, c'est le climat le plus dur. Et là, en face de nous, il y a des femmes qui sont autour d'un robinet, un malheureux robinet, mais enfin, c'est quand même un robinet, et elles attendent que leurs bidons se remplissent. Elles ont amené des gros bidons jaunes. Elles rigolent aussi, parce que c'est un endroit, évidemment, de rencontre, où on rigole, où on se raconte des histoires, où on fait la coiffure aussi. Là, on est en train de coiffer des femmes, des jeunes filles. Et puis là, c'est vendredi, donc c'est le jour de repos. Ça correspond au dimanche. Mais enfin, la corvée de l'eau, c'est au moins une journée, hein, d'aller et venir. Mais là, on a rencontré un monsieur qui revient de la pêche. Il a ramené 3-4 poissons. Et puis, il ramène... Je ne sais pas ce que c'est, ces herbes-là qu'il ramène.
Ici au village, il n'y a pas de quoi nourrir le bétail. Donc nous, on va très loin pour chercher ça, juste pour nourrir le bétail.
Comment vous vous appelez ?
Ahmed Ibrahim.
J'ai 15 enfants.
15 enfants ?
Mm-hmm. J'arrive même pas à subvenir. C'est pour cette raison justement que pas mal de gens partent à Mayotte pour aller travailler et gagner leur vie. Peut-être ils reviendront au village et la vie changera.
Il y en a beaucoup du village ici qui sont partis à Mayotte ?
Ça, c'est le sport national. Tout en juin est à Mayotte.
Vous avez des amis qui sont partis là-bas ? Des frères, des sœurs ?
Elle est morte là parce qu'elle voulait aller à Mayotte chercher la belle vie, ma sœur.
Quand ça ?
C'était l'année dernière.
Comment ça s'est passé ?
C'est la vedette qui a chaviré parce que la mer était mauvaise.
Ils étaient combien à bord ?
Tu sais, tu ne peux pas savoir parce que des fois ils vont à 20, à 30. Tu ne peux pas savoir.
Et on avance le chiffre de 200 victimes comme ça par an. Depuis le visa Balladur, il y a eu environ 5000 personnes comme ça, comme les gens qui sont autour de nous, qui ont essayé de prendre le Kwasa-Kwasa là, pour aller à Mayotte. Et puis il y a eu des accidents comme ça, et il y en aura cette nuit, il y en aura demain, il y en aura, et ainsi de suite.
On les a enterrés là-bas au bord de la plage.
Donc les corps vous ont été rapportés.
On les a retrouvés un beau matin sur la plage.
Échoués sur la plage. Est-ce que vous voudriez que Anjouan soit rattaché à la France, redevienne française?
C'est la région qu'on cherche. C'est pourquoi on se déplace pour aller à Mayotte, parce qu'on veut que la France revienne ici.
Ici à Anjouan.
Mm-hmm. Oui, nous voulons que la France revienne ici.
Vous allez être colonisé.
Mieux vaut être recolonisé que de rester comme ça et ne rien avoir, sinon on finira voleur et ça, c'est pas bon.
Alors voilà qui amène de l'eau au moulin des nostalgiques, des, autant des colonies qui sévissent par les temps qui courent dans l'Hexagone. Et c'est vrai qu'on rencontre, hein, en jouant, île des Comores, des Anjouanais qui rêvent du retour de la France. On les appelle les rattachistes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en août 1997, on a été surpris de voir des images de ces habitants d'Anjouan, qui demandaient, alors à la fois leur séparation du reste des Comores, d'une part, et certains demandaient leur rattachement à la France, demandaient la recolonisation de leur île. Évidemment, la raison est simple, c'est qu'ils voient là-bas Mayotte, la prospère, et ils rêvent aussi de prospérité pour eux-mêmes. Alors ce mouvement, bon, aujourd'hui c'est un peu calmé, a perdu de sa vigueur, mais il existe bel et bien. Alors ça, c'est les séparatistes, et puis on verra, il y a les unionistes qui veulent rester dans l'union des Comores. C'est des points de vue différents. On est sous cette à l'ombre de ce manguier, il fait très très chaud, et là il y a donc ces femmes, comme je disais, qui sont à la fontaine et qui nous entourent bien sûr, à cause de notre charme évidemment, mais aussi parce que c'est quand même une curiosité de voir des mzungus comme ça en plein après-midi.
Alors, quelles sont celles qui ont envie de partir?
Moi aussi.
Là, c'est tout le monde qui veut partir. On va faire le contraire. Qui est-ce qui a envie de rester ici?
C'est les grands-mères.
Les grands-mères.
Mais nous tous, on veut y aller. On veut aller manger les ailes de poulet, nous aussi. Attends, nous, on veut de l'argent parce qu'on a envie de faire aussi nos plaisirs, nous.
C'est quoi le plaisir?
On veut aussi des belles maisons. Pourquoi pas des voitures et de la belle vie?
Mais est-ce que vous avez des amis, des filles de votre âge qui sont déjà parties là-bas?
Oui,
on en a beaucoup. Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, de partir? Pourquoi tu pars pas, alors?
C'est l'argent, quoi. Il nous faut 100 à 150 euros.
Ah, lesquels sont en train d'économiser pour partir, là, en ce moment?
Il
n'y a personne. Et pourquoi?
Parce
qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent, on n'a pas de travail. Il n'y a aucun moyen d'avoir des euros.
Ici au village, il n'y a pas.
Mais comment tu fais pour t'acheter tes petites robes, tes petits colliers, les petits bonbons, les petits maquillages?
Pour gagner tout ça, on est obligé d'aller prendre du sable, ramasser du sable.
Ah, vous vendez du sable?
Bon, il y a des camions qui viennent de loin, qui viennent acheter le sable ici.
Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là-bas sont heureux?
Non, ils ne sont pas dans la joie. Parce que justement, vous, les Français, vous voulez les foutre dehors.
Et vous rêvez toutes de vous marier bientôt?
Mais oui.
Comment vous faites pour choisir votre mari?
Je peux voir un homme et l'aimer, comme lui aussi peut me voir et m'aimer. Ça commence comme ça.
Comment vous allez au bal? Vous allez danser? Comment vous faites pour rencontrer les garçons?
Nous, on y va aussi danser.
Alors, quand vous allez danser, vous vous maquillez comme elle? Oui. Alors ça, moi, je dois dire qu'elle a un très, très beau maquillage sur le visage. C'est difficile. C'est comme un masque de pâte. Celui-là est jaune, j'ai jamais vu encore ce jaune-là. Sinon, c'est comme la jeune fille qui est là, avec un masque plus clair, comme ça. Comment on fait ce masque?
Ça, on le fait sur une pierre, un corail, avec un bois spécial.
Et alors, moi, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous marier?
Amy. Tu dois avoir de l'argent si tu veux me marier. Avoir de l'or, comme ce que je porte. Et ma famille doit faire ma maison. Il faut quand même qu'ils meublent aussi ma maison.
Donc il faut de l'argent pour se marier.
Ah
oui, il faut que la femme ait de l'argent et l'homme aussi.
Et alors, une fois que vous serez mariés, vous voulez toutes des enfants. Combien tu en veux, toi?
Je veux deux.
Deux? Ça fait 10. Toi, t'en veux 10, elle en veut 2. Toi, t'en veux combien? 2 aussi. 2, pas plus.
Celle-là, elle en veut 5.
Alors c'est quoi ça?
Ça s'appelle le tari.
Le tari?
Le tari. Le jour du mariage.
Mais ça, c'est magnifique, hein. C'est magnifique ce qu'on voit là. La circulation est coupée et il y a toute la noce qui est là, avec des femmes, hein, avec des vêtements chamarrés, des boubous multicolores, très ornés, de motifs géométriques, de fleurs, de palmes, etc. Les coiffures, c'est un concours de la plus belle coiffure, des parfums très sensibles. Et alors, les femmes sont autour et les hommes circulent en rond, comme ça.
En file indienne.
En file indienne, applaudie par les femmes. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi elles agitent des billets? Pourquoi le marié, celui qui doit être le marié, porte un sabre? Pourquoi, en tous les cas, on est le plus beau possible, le plus gai possible, le plus souriant possible? Pourquoi les gens remuent des billets comme ça?
Donc, elles ont mis le billet pour montrer leur joie, qu'elles sont vraiment heureux de leur faire le mariage. Donc la signification de ce chanson, ton enfant et mon enfant viennent jouer ensemble.
La fête va durer jusqu'à quelle heure là?
Jusqu'à 21h. Donc après 21h, on va continuer le jeu pour les hommes. C'est les hommes après. Donc les hommes qui entourent là avec deux fleurs, c'est les familles du mari.
Tu t'es marié comme ça toi?
Oui, oui, oui. Je fais un grand mariage.
Hein?
Ça, c'est très cher.
Beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent.
Ouais, c'est ça.
Pour la dot, les habits de la femme en question. Donc, la signification de là, félicite-moi, 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 félicite-moi.
Alors ça, le mariage aux Comores, c'est quelque chose de très 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 important, surtout en Grande Comore, mais dans les autres îles, à Moëlly, à Anjouan, ça dure des jours et des jours, c'est rutilant, c'est ostentatoire, c'est très 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 coûteux, et c'est absolument magnifique. Et on nous dit qu'il faut venir en juillet et en août dans les Comores. C'est la saison où les Comoréens de France, je rappelle 250 000 Comoréens qui vivent en France, à Marseille, à Lyon, Paris et Dunkerque, mais très nombreux à Marseille, rentrent au pays et très souvent c'est pour s'y marier et faire ces fêtes absolument somptueuses. Alors, il faut pas oublier non plus, là on donne de cette île une image un petit peu dramatique. Il y a aussi évidemment beaucoup de charme, beaucoup de beauté, beaucoup d'énergie aussi, hein, dans cette île d'Anjouan. Alors on va essayer, toujours le souci c'est de comprendre ce qui se passe derrière ces images, derrière ces allures, ces pauvretés, ces grâces, ces grandes richesses là qui nous sont qui s'étalent sous nos yeux, richesses de cette noce. On va rencontrer un Abou Latif Mohamed, qui est un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, et qui est un militant des droits de l'homme dans sa bonne ville de Moutsamoudou à Anjouan, et qui donne de cette île et de la vie qu'on y mène une image un peu inattendue.
La liberté d'expression, c'est un tabou ici. Tout le monde a peur de parler, de s'exposer. Et même les syndicats qui sont aux Comores, ils s'y revendiquent on est quand même, on a en récompense, tu es affecté ou bien tu es licencié. Les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Les Comores ont toujours le mauvaise image du mercenariat, de la corruption.
Des mercenaires, oui.
De mercenariat, corruption. De la corruption. Mais nos politiques doivent changer de caractère.
L'opposition a beaucoup de mal à s'exprimer aussi. Là, toi, tu es un des rares ici à pouvoir s'exprimer.
Moi, des rares, moi, j'ai subi des conseils, des séquelles. J'étais torturé à mort. Parce que j'ai défendu l'unité des Comores et j'étais contre le séparatisme. C'était en l'an 2000, en juin, par le régime d'Abeid. On m'a torturé, on m'a placé dans une citerne.
Placé dans une citerne?
Oui. Et puis, on a pris une barre de fer de 8. Et on a brûlé, on m'a mis sur le dos. Parce qu'on protestait contre la dictature. Ils étaient obligés de nous torturer. On était dans une citerne pendant 5 jours. Et puis j'étais dans le chaos. On m'a transféré à l'hôpital. J'ai fait 21 jours à l'hôpital. J'étais dans le coma pendant 21 jours.
Et c'est le même gouvernement aujourd'hui ou ça a changé?
C'est le même clic qui sont là. Il y avait Abed, mais le système c'est le même. Les séparatistes, ils étaient là, ils ont torturé, ils torturent les gens.
Il continue aujourd'hui?
Oui, il continue, mais tout le monde s'éteint, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Moi, je me pose beaucoup de questions. Comment on va organiser ces élections?
Les élections, c'est en février.
En février. Et beaucoup de candidats ont peur de venir s'exprimer pour le moment. Tout le monde a peur.
Alors, ce que vous dites aussi, ce que tu dis aussi, parce que tu me tutoies, je te tutoie. Ce que tu dis aussi, c'est qu'il n'y a pas d'administration. Ou alors, c'est une administration complètement pourrie et corrompue.
Non, mais pour le moment, il n'y a pas d'administration. Déjà, le système qui est aux Comores, les îles autonomes, l'Union, mais il y a un dysfonctionnement total. On ne sait même pas qui commande, qui dirige le pays. Qui est le maître de ce pays? Moi, je suis contre ce système. Parce que le problème des Comores, ce n'est pas avoir plusieurs. C'est un petit pays comme le Comores. Vous imaginez, monsieur, qu'il y a au moins 56 ministres, les ministres de l'Union et les ministres des îles. Il y a des députés, il y a des secrétaires généraux, tous ces gens, des conseillers, tous ces gens-là, ils seront obligés de payer à la fin du mois. Il y a une masse salariale énorme. Déjà, c'est un problème. Et au niveau du fonctionnement de l'Union de l'île, jusqu'à présent, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Il y a la constitution qui est là. Moi, je considère cette constitution comme une constipation. Ça ne fonctionne pas.
Une constipation. La constitution est une constipation.
Ça ne fonctionne même pas. Moi, je suis unioniste. Je suis d'accord qu'il y a un État. Et puis, il y a que chaque île a son petite administration à côté. Les hôpitaux, les écoles. Un État décentralisé, unitaire.
D'accord. Et la France, elle est où là-dedans? Elle s'en va?
Non, mais la France, c'est le premier partenaire de Comores. Je ne sais pas comment la France a récupéré Mayotte. Mayotte, c'est comorien. Déjà, la population mahoraise, ou bien la population comorienne, on est de la même famille. On a le même dialecte, la même religion, la même culture, le même sang. Moi, quand je suis là, j'ai mes cousins, j'ai mes petits frères à Mayotte. En genre, tout le monde a des relations à Mayotte. Soit sa sœur, soit son cousin, mais tout le monde a de la famille à Mayotte.
D'accord, mais aujourd'hui, comment persuader les habitants de Mayotte de rejoindre une union comme ça des Comores? Alors, sachant que ça voudrait dire que la France s'en va, et si la France s'en va, ça veut dire un appauvrissement rapide.
Moi, pour les Maorés, c'est tout à fait normal s'ils ont quelqu'un derrière lui qui lui donne à manger, à le nourrir, à se soigner, gratuitement. C'est tout à fait normal que Mayotte cherche à rester français.
Ben oui.
C'est logique. Moi, je pense que le problème, maintenant, après 30 ans d'indépendance des Comores, Mayotte est restée française et ils ont eu les avantages de la France. Ce n'est pas le lendemain qu'on va dire aux Maorés, stop, il faut venir avec nous pour souffrir. C'est la logique des choses. Imaginez un type comme moi, qui a 3 enfants, qui a au moins 30 mois d'arrière salaire. Tu ne peux pas dire à un Maoré de retourner ici pour souffrir bêtement. Les enjeunés, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas d'y aller en France, c'est de rester ici pour avoir une belle vie. Et la solution, ce n'est pas pour chasser tous les enjeunés qui sont à Mayotte. Il faut trouver des solutions à enjoindre créer une stabilité politique d'abord.
Politique d'abord.
Oui, lutter contre la corruption et développer ces îles. Il faut insérer les gens de ne pas y aller à Mayotte. Il faut qu'il y ait un niveau de vie très élevé ici, que les gens arrivent à se soigner ici, à trouver du travail, à avoir un niveau de vie. Le problème de ce pays, il faut que ce pays change par la mentalité fataliste qui est là. Il faut qu'on montre les gens qu'il faut travailler, il faut avoir une bonne conduite, que ce pays se développe. Il ne faut pas aller s'humilier à Mayotte. Si, par exemple, on a des moyens ici, les gens vont rester chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Mayotte? Les gens sont humiliés à Mayotte.
Au revoir, monsieur le député. Et bon voyage.
Au revoir,
monsieur le député.
Alors, monsieur Flock, vos impressions sur cette rencontre avec le président Bakar d'Anjouan?
Eh bien, intéressant. Parce que on a eu le point de vue des Anjouanais. Et manifestement, il y a un autre problème qui se dégage. C'est le problème du développement économique d'Anjouan. Et comme Anjouan est une île avec une production agricole importante, il y a un grand marché à côté d'Anjouan qui s'appelle Mayotte. Et les Anjouanais souhaiteraient que ce marché leur soit ouvert. Actuellement, il y a des contraintes. Parmi les contraintes, eh ben, il y a des importateurs de fruits et légumes qui bloquent. Alors, est-ce que les intérêts d'un importateur, les intérêts légitimes d'un importateur, peuvent obliger à des problèmes, blocage des visas, impossibilité de circuler d'une île à une autre? C'est comme ça que les Mahorais mangent des pommes de terre du Finistère, alors qu'ils pourraient manger des pommes de terre d'Anjouan, mangent des oignons d'Argentine, alors qu'ils pourraient manger des oignons d'Anjouan. Je crois que surtout, ça intéresse un importateur.
Voilà une observation d'un parlementaire français, Jacques Flock, député PS, qui faisait partie de cette mission parlementaire qui s'est rendue sur place suite à, on en a parlé, aux événements de l'automne dernier. Cette mission parlementaire a été à Mayotte et puis dans les Comores pour essayer de comprendre la situation. Monsieur Jacques Flock n'est pas un gauchiste furieux, n'est pas un altermondialiste intégriste, mais il nous a semblé intéressant de vous faire connaître un peu ses impressions et ce qu'il pense de la situation, même si évidemment la commission, cette mission parlementaire n'a pas fini ses travaux et ses propositions ne sont pas faites. Donc c'est un point de vue de l'un des participants de cette mission, Jacques Flock, donc député PS. On a quand même parlé d'un risque de guerre civile. C'est quand même pas rien. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, pourquoi pas? C'est un vrai risque. Alors, c'est toujours la même chose. Les Mahorais ont des problèmes, on le sait, des problèmes d'emploi, des problèmes de scolarisation, des problèmes d'accès à l'hôpital, des problèmes d'accès au dispensaire, des problèmes d'accès au logement. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire, il est tout trouvé. C'est tous ceux qui arrivent clandestinement, qu'on baptise Anjouanais. Alors qu'il y a des Anjouanais, mais il y a aussi des grands Comoriens, il y a aussi des Tanzaniens, il y a aussi des Malgaches, il y a aussi des gens du Rwanda, etc., etc. Alors le risque, c'est ce qu'on connaît partout à travers le monde, c'est qu'il y ait des responsables politiques qui jouent cette mauvaise carte, c'est-à-dire d'exciter ou de faire reporter sur une minorité tous les maux de la majorité. Et là, à ce moment-là, il y a...
Vous pensez que les conditions réunies...
Il y a des conditions qui sont réunies pour qu'un jour ou l'autre, quelqu'un allume la mèche. Que dans un bidonville autour de la capitale de Mayotte, il y ait 2-3 bâtiments, 2-3 cases qui brûlent, avec des enfants qui meurent, par exemple. Et là, on aura un vrai risque d'émeute. Ce risque-là existe.
Parce que le différentiel entre le niveau de vie ici, d'Anjouan et Mayotte, est tel
1 à 5.
Voilà, de 1 à 5. Si bien qu'il y a un autre chiffre qui est rappelé tout le temps et qui est assez terrifiant, c'est que depuis 1997, les traversées clandestines sur ces petites embarcations ont fait quand même 5000 morts. C'est un chiffre qui tourne.
Qui tourne, oui.
Bon, vous rendez compte, 2000, 3000, 4000, peut-être 5000 personnes qui sont mortes
en traversant un bras de mer de 70 km entre deux îles qui pourraient être des petits paradis. Enfin, humainement, c'est scandaleux. C'est inadmissible.
Et Mayotte n'est pas viable comme citadelle assiégée de toute façon.
Ah non, on peut. Alors là, il est hors de question de faire de Mayotte un blocos. Et puis vous savez bien, tant que l'assiette à Mayotte sera plus remplie que l'assiette ici à Anjouan, vous aurez beau mettre tous les radars, toutes les vedettes, tous les bateaux que vous voulez pour contrôler, les gens passeront. L'économie de Mayotte a besoin des travailleurs d'Anjouan. C'est manifeste. En matière d'agriculture, en matière de services. Mayotte en a besoin. Régulons, essayons de réguler. Je l'ai dit, je le répète, moi ça ne me choque pas du tout que des femmes de Anjouan viennent accoucher à Mayotte et que l'on dise plus « Ah oui, mais ces femmes viennent accoucher à Mayotte parce qu'elles veulent que leur enfant devienne français. » C'est pas tout à fait ça. Le premier motif, c'est d'abord parce qu'elles accouchent dans des conditions sanitaires convenables. Le deuxième, il va falloir expliquer aux Anjouanais et aux Mahorais aussi, hein, que c'est pas parce qu'on est sur le territoire français que l'on est français. Il faut que l'on réside, c'est ça le droit du sol. Il faut qu'on réside un certain temps pour pouvoir justifier du droit du sol. Donc il suffit d'expliquer ça. C'est pour ça qu'il faut réguler, qu'il y ait une forme de contrat.
Réguler, forme de contrat ou remise en cause de la loi du sol?
Non, il n'y a pas besoin de remettre en cause. On ne va surtout pas s'amuser à ça. Un enfant d'Anjouanaise qui serait né à Mayotte, plus tard, peut-être, il peut, s'il le veut, justifier de sa naissance pour dire « Je suis né sur un territoire français, je réside depuis plus de 5 ans sur un territoire français, j'ai plus de 13 ans, je réclame la possibilité d'être français. » Mais combien il y en a qui le feront? Combien il y en aura qui le feront? S'il y en a quelques centaines, même quelques milliers, qu'est-ce que ça peut faire à la République française?
Au contraire,
ça peut être un enrichissement. C'est des talents. Et la France n'a pas de population en trop.
Voilà, c'était Jacques Floch qui parlait, député PS. Merci à tous, merci à Aboulatif Mohamed, à Ahmed Ibrahim, Fatima et tous les autres. Traduction Kamal Ali Yehouda, le reporter, c'était Guy Ventil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Antoine Viossa. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet avec la participation de Raphaël Mouterde qui ont réaliser cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. L'email de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.